Et aujourd'hui, Anne-Rose Jankovic, vous allez nous parler d'une aventure à la fois humaine et sportive.
Et oui, c'est le genre d'aventure que j'aime et qui a toute sa place sur notre antenne parce que c'est une aventure qui a du sens. Ça s'appelle Ensemble au sommet et c'est l'histoire d'un Tarbé, Michael Genet, 35 ans, un homme un chouïa hyperactif peut-être, mais en tout cas un homme passionné de sport et de montagne et surtout passionné par la vie et la vie avec les autres. Michael Genet aime les défis et puis il aime les partager. Alors une fois qu'il a gravi l'Everest, eh bien cet homme-là a eu l'idée un peu dingue de gravir d'autres sommets en embarquant dans ses escapades des personnes en situation de handicap. Et oui, rien que ça. Et puis, puisqu'il avait envie de le faire, eh bien, il l'a fait. On a affaire, vous l'avez bien compris, à quelqu'un qui va au bout de ses projets. C'était l'été dernier, au pic du Midi de Bigorre. 150 personnes avaient suivi ce cortège peu banal, une prouesse humaine, sportive et logistique qui a donné à notre aventurier l'envie de continuer. Michael Genet repart dans quelques jours en direction du Mont Blanc, ils seront deux, mais surtout, il a décidé de relever le défi d'atteindre le sommet du Kilimandjaro à la fin du mois d'août. C'est donc un équipage de 17 personnes qui emmène à plus de 5000 mètres d'altitude, 3 personnes en situation de handicap, Gilda, Clément et Tom. Gilda et Clément sont mineurs. Alors je suis sûre, Gilles, que vous vous demandez, mais pourquoi Michael Genet fait-il donc ça? Pourquoi ne reste-t-il pas tranquillement dans les montagnes bigourdanes? Eh bien, c'est aussi la question qui me titillait et que je suis allée lui poser à l'occasion d'une conférence de presse qu'il menait il y a quelques jours.
Bah, en fait, Ensemble au sommet, c'est le nom d'un projet qui a débuté donc il y a 2 ans maintenant, suite à une aventure incroyable qui m'a été permis de réaliser avec la Concagua et donc l'Everest, qui a permis de mettre en lumière grâce à beaucoup de gens qui ont suivi cette aventure. Et donc le côté inclusif a été le maître mot de cette expédition, puisqu'on a permis à beaucoup de personnes d'accéder au pic du Midi l'année dernière. Et donc Ensemble au sommet 2 aujourd'hui, qui est porté donc par l'association Élan Bigourdan, est un projet plus que jamais va reprendre les valeurs inclusives de la première édition, mais ce coup-ci en emportant des personnes en situation de handicap beaucoup plus haut en altitude.
Alors ces personnes en situation de handicap, elles sont choisies comment? Elles sont déjà sportives, vous les connaissez depuis longtemps, comment elles arrivent dans le giron de Ensemble au sommet?
Eh bien, je dirais qu'elles sont venues pour le coup, ces trois-là viennent d'horizons différents, puisque certains étaient déjà dans mes connaissances depuis longtemps, d'autres que j'ai rencontrés grâce à Ensemble au sommet première édition, et la petite Gilda donc, que j'ai rencontrée un peu croisée sur quelques événements handi, et aujourd'hui qui est pour moi un peu notre rayon de soleil, notre mascotte, comme on pourrait dire aujourd'hui, parce que elle porte à elle toute seule le sourire et la volonté, l'énergie de toute cette équipe qui n'a qu'une envie, c'est d'être au départ dans quelques semaines donc pour la Tanzanie et pour Tom et moi pour le Mont Blanc la semaine prochaine.
Alors pourquoi vous faites ça, Michael? Parce qu'au fond, on pourrait se dire, le défi, ce sont déjà de grands défis sportifs. Pourquoi se rajouter peut-être des difficultés, en tous les cas ce défi-là, ce pari-là d'emmener des personnes en situation de handicap avec certainement beaucoup de joie, mais aussi tous les risques ou toutes les précautions que ça suppose?
Oui, c'est le mot précaution, c'est un mot qui est difficile et qui est même, je pense, pour beaucoup de gens, assez difficile à entendre. Pour moi, simplement, la genèse de cette volonté que j'ai au fond de moi, c'est simplement de dire qu'aujourd'hui, après avoir réalisé, par exemple, des ascensions comme l'Everest et la Concagua, je me suis dit que le Kilimandjaro, c'était une aventure que je pouvais peut-être permettre d'accéder à des personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre part à ce genre d'expédition. J'ai vraiment envie de permettre à des gens qui, dans la vie, ne sont pas souvent mis en lumière par rapport à des accidents de la vie ou des problèmes de naissance, et moi je trouve ça magnifique aujourd'hui de pouvoir mettre en lumière cette cause, de dire moi aujourd'hui ma passion, ce qui me motive au quotidien, c'est ce dépassement de soi qu'on retrouve dans les sports d'endurance, mais de leur permettre de vivre ça, parce que c'est pas seulement que du sport, c'est une aventure humaine, c'est un voyage, et ce voyage là comme tous les gens autour de nous aujourd'hui en parlent, et vous devez entendre ce mot là souvent, c'est une préparation, c'est un engagement. Quand on se lance dans une telle aventure, on prend avant tout part pendant des mois et des mois une préparation mentale qu'on fait inconsciemment, et c'est ce que je veux permettre à des gens qui n'ont jamais accès à ces choses-là finalement. Voilà, une petite sortie pour eux, c'est une aventure. Ben là, ça va être vraiment une vraie aventure, mais au sens propre, même pour un valide.
Voilà, alors ça, l'aventure, effectivement, elle se joue aussi. Vous n'y allez pas seul, hein, vous n'embarquez pas ces personnes en situation de handicap tout seul, vous partez vraiment tout un groupe. Donc ça veut dire que tout ce groupe-là qui part avec vous, ce sont des personnes qui ont fait le pari aussi, et bien d'abord d'arriver au sommet. Et de prendre le temps dans leur vie de tous les jours de se préparer, de s'entraîner depuis des mois pour être de l'aventure.
C'est ça, j'ai essayé de constituer une équipe autour de moi. Dès le départ, on avait un socle, hein. Bien sûr, je ne serais pas parti tout seul sur cette idée-là. On cite souvent mon nom, mais je veux rétablir une vérité, c'est-à-dire que derrière mon nom, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent, tout comme pour Ensemble au Sommet 1. Je n'ai pas été tout seul. Bien sûr, pour l'Everest et la Concagua, c'était le cas, mais je veux dire, il y a eu toute une logistique qui a été organisée derrière. Ce nouveau projet, nouvelle association, des nouvelles personnes aussi, mais aussi des personnes qui ont participé à Ensemble au Sommet 1. Et donc, ces personnes-là ont fait partie du socle, le point de départ qui me permettait de croire à la réalisation de ce projet. Et semaine après semaine, ça a été des nouveaux défis qui permettent d'assurer, comme vous le dites à juste titre, hein, tout ce qui va être assuré, une logistique, de la sécurité, à la fois sur le plan technique, médical. C'est un vrai défi. Et je comprends aussi tous les jours, hein, pourquoi on n'a pas ce type de projet majeur tous les jours dans notre actualité. Mais c'est aussi ce que je trouve excitant dans un projet comme ça. Moi, j'aime aussi dire que être au départ, c'est déjà un sommet. Comme je dis, aujourd'hui, je l'ai répété durant cette conférence, c'est vraiment important. Oui, aujourd'hui, être au départ, c'est déjà en soi, pour nous, le départ de l'aventure. Et on verra où c'est que cela nous mène.
Alors, au total, il y a combien de personnes qui sont mobilisées? Alors, celles qui partent, mais celles qui sont autour et qui partent pas, mais qui sont indispensables dans les préparatifs et dans le bon déroulement des choses?
Alors là, si on fait un peu de mathématiques, on a 3 personnes en situation de handicap qui partent vraiment, eux, ils sont... le projet leur est dédié. On a 2 enfants en plus, donc 2 mineurs. En tout, on a 4 mineurs. Et donc 2 en situation de handicap. Donc on peut dire qu'eux vont nécessiter un accompagnement et une assistance. A l'inverse, les autres personnes qui sont là, donc dans l'aventure, on est 17, et ces 17 personnes sont là dédiées pour venir accompagner donc ces personnes.
Néanmoins, il faut une logistique autour de ces personnes-là.
Voilà, et donc pour cette logistique-là, on a constitué différents pôles. On a justement un pôle logistique, on a un pôle médical, et on a toute une équipe autour. On a une équipe en France qui nous a beaucoup accompagnés, qui ne sera pas au départ, mais qui nous a aidés pour la partie financière, pour la partie associatif et tout ce qui peut être papier, hein, administratif. Et on a une équipe locale sur place c'est indispensable et obligatoire aujourd'hui de toute façon. On a dû se référer au règlement du parc national du Kilimandjaro, et on a une grande équipe qui nous attend de guides et d'accompagnateurs.
Voilà. C'est quoi le plus difficile quand on prépare un projet comme celui-ci qui paraît quand même un petit peu fou?
Pour moi, honnêtement, c'est des mots qui sont difficiles pour moi à exprimer aujourd'hui, parce que je suis encore en plein cœur, même si je pense que le plus gros est derrière maintenant. Moi, comme je le dis souvent là aujourd'hui, moi, à partir du moment où c'est que tout le monde aura ses fesses dans l'avion à la fin du mois d'août, je serai soulagé et même si c'est déjà plus ou moins acquis, je veux dire, mais c'est déjà pour moi le travail accompli. Pour moi, ça a été difficile parce que c'est voilà, la vie personnelle, elle est là. J'ai une vie professionnelle aussi, évidemment, à tenir. Et ça, c'est de l'associatif, c'est du temps que je donne en plus. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre quand on me pose ce genre de questions, c'est que c'est le choix qu'on fait tous dans nos vies ou pas. Il y a des gens qui vont vous répondre, moi, j'ai pas le temps. Ben, moi non plus, j'ai pas le temps, mais je le fais.
Vous faites quoi dans la vie?
Alors moi, j'ai
à part mener des projets fous.
Honnêtement, ça pourrait vous paraître difficile à croire, mais je suis chef d'entreprise. En même temps, je suis salarié à temps plein, je suis cadre chez Daher, donc dans l'industrie aéronautique, avec un poste à responsabilité. Et j'ai une vie très chargée aujourd'hui, et je suis également adjoint au maire de Tarbes, donc j'ai beaucoup de casquettes aujourd'hui, et c'est la vie qui m'a mis face à tout ça. L'actualité et les choix que j'ai faits m'ont permis de me lancer sur plein de choses, mais en soi, ça ne remet pas en question les engagements que j'avais pris sur ça. Ça m'a juste permis d'être aujourd'hui focus à 100% pour mener ce projet jusqu'au bout.
Alors maintenant, on va essayer de se mettre vraiment de mettre des images dans la tête de nos auditeurs. Concrètement, comment on fait d'un point de vue très matériel et logistique pour emmener 3 personnes en situation de handicap? Peut-être qu'il faut dire quels sont les handicaps qu'elles portent, mais en haut du Kilimandjaro, ça veut dire quoi? Des joëlettes, du matériel, des fauteuils? Enfin, comment vous faites concrètement?
Alors, concrètement, aujourd'hui, en quelques mots, c'est assez simple. On a 2 athlètes qui sont plutôt autonomes, qui sont hémiplégiques. Hémiplégique, c'est un grand mot dans le domaine du handicap, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas tout à fait la validité de tous leurs membres, notamment inférieurs pour Thomas et pour Clément, mais aussi supérieurs. Et on a Gilda, qui a un défi un peu plus différent, puisqu'elle a une motricité qui est beaucoup plus complexe et qui nécessite une assistance. Et donc, nous, le premier défi qu'on a voulu répondre, c'est à celui-ci. C'est un défi moteur, c'est essayer de... pas lié à ça, donc Clément et Thomas ont l'avantage de pouvoir, eux, se rendre jusqu'au sommet, je le pense, en tous les cas, avec une belle préparation physique qu'ils ont déjà entamée il y a de nombreux mois. Pour Gilda, c'est plutôt logistique, comme vous avez parlé de fauteuils, bah oui, on a choisi de collaborer avec Vipamat, donc un fournisseur de fauteuils adapté pour le tout-terrain, notamment l'Hippocampe Marathon, qui est un célèbre fauteuil pour ce genre d'expédition-là, qu'on a sélectionné, non pas par hasard, mais parce que c'était conforme au terrain qui nous attend. Et après, il y a l'autre défi, c'est le défi médical. Et le défi médical, pour le coup, celui-ci, il a été été extrêmement restrictif pour nous. Donc on a pris part à des tests hypoxie, on a aussi sur place prévu des bouteilles d'oxygène. C'est un petit peu plus de 5800 mètres d'altitude, le Europic comme on l'appelle. Et donc forcément, le risque pour moi, il est numéro un, c'est l'hypoxie, parce que c'est un risque invisible. Une cheville qui se foule, on le voit tout de suite, on l'identifie et on redescend si nécessaire. Le test hypoxie, il peut être plus invisible, et notamment chez les mineurs, qui peut donner un défi complémentaire. Et pour nous, c'est pour ça qu'on a insisté là-dessus. Et on a plusieurs voies, je dirais, de repli, des scénarios qu'on a étudiés tous en cas de problème chez du valide comme de l'invalide, pour pouvoir garantir la sécurité de tous les participants jusqu'au bout.
Est-ce qu'il y a une chose qui vous fait peur dans cette aventure? Parce que vous avez l'air d'être déjà un peu parti, à fond, sûr de vous, sûr de la réussite aussi de ce projet. Est-ce que il y a un point d'inquiétude, de doute ou de vigilance particulier?
Alors, de peur, absolument pas, parce que sinon je ne me serais pas lancé là-dessus. J'ai toujours cru que c'était possible. Ça n'a pas été toujours facile de convaincre les gens autour, il faut être sincère. Je peux comprendre que les gens aient des doutes quand ils entendent parler d'une telle expédition. Il a fallu convaincre des parents. Il faut aussi imaginer que des parents nous confient leur enfant mineur en situation de handicap. C'est assez fou. Donc, il faut imaginer la relation de confiance qu'on a pu créer ensemble. Et c'est ce que je trouvais beau dans cette aventure. Et moi, je sais que là-dessus, j'aime à croire que l'équipe qu'on a constituée est tous soudée autour de cette idée-là, d'être au départ, encore une fois. Mais après, non, l'envie pour moi, c'est simplement que tout le monde profite à mesure de ce qu'il est venu chercher. Et je sais que l'équipe qu'on a constituée est venue chercher un partage humain avant tout, plus qu'un sommet. Mais on va dans tous les cas voir de beaux paysages, découvrir une autre culture et vivre une expérience formidable.
Alors je sais que vous êtes très pris, donc je vais bientôt vous libérer, mais j'aurai encore plein d'autres questions. Mais quand même, on va terminer avec l'ancrage local. Vous êtes tarbé, vous êtes entouré de personnes des Hautes-Pyrénées qui aiment les montagnes, qui aiment la Bigorre. C'est un peu votre terrain de jeu, en tous les cas, c'est votre terrain d'entraînement et c'est aussi votre terrain de partenariat. Ça, c'est peut-être important, ce partenariat avec principalement des partenaires locaux. Ça a du sens aussi, j'imagine. Vous parliez tout à l'heure de valeurs humaines, mais j'imagine que ça a du sens aussi pour vous d'emmener quelque part un petit peu toutes les Pyrénées et les acteurs locaux là-bas en haut du Kilimandjaro.
Oui, je vous cache pas qu'aujourd'hui, quand les gens me croisent et me reconnaissent, c'est souvent juste parce que j'ai fait l'Everest. Moi, ça m'a pas changé ma vie particulièrement. Je reste un tarbé qui, comme vous dites, utilise notre terrain de jeu qui est formidable. Mais avant tout, ça a été un crédit qui m'a été donné dans le regard des autres personnes. Aujourd'hui, quand on va démarcher des partenaires et que les gens se disent, déjà, il y a eu quelque chose qui a été réalisé l'année dernière. Après, vendre qu'on emmène des personnes en situation de handicap qui sont issues du territoire, ça a été fort de sens. Et je pense que beaucoup de sociétés ont voulu associer leur image à un projet inclusif, et je pense qu'ils ont tous compris que le projet, c'était surtout l'aventure humaine et mettre en lumière ces trois personnes-là. C'est pour ça que je suis fier de répondre aujourd'hui à ces interviews-là, mais j'espère qu'à notre retour, les gens porteront un regard différent et permettront à des personnes comme Gilda, à d'autres personnes comme Gilda, Clément et Tom, de prendre part à ce genre d'aventure dans le futur.
À propos de ces partenaires, on peut quand même aussi signifier que grâce à eux, l'aventure d'un point de vue financier est possible aussi.
Tout à fait, parce que comme je le répète, c'est une aventure qui a été à 100% gratuite pour ces personnes-là. On a, même là encore aujourd'hui, on creuse pour essayer de fournir même des petits à côté, les assurances, des équipements, parce qu'il y a toujours des besoins particuliers là-dessus. Et aujourd'hui, on ne s'est pas intéressé aux moyens qu'avaient les parents ou les familles. On a, d'entrée dans le projet, considéré que c'était un projet offert pour eux. Et donc, ça a été, vous imaginez que ça a un coût énorme. Et donc, tous les bénévoles ont œuvré pour permettre de faire connaître ça et participer à mes côtés à obtenir des fonds pour avoir la logistique et les billets d'avion et un tas de trucs qui permettront à Gilda, Tom et donc à Clément d'être au départ de cette fabuleuse aventure.
Donc du 21 au 30 août, Kilimandjaro, comment on vous suit depuis la Bigorre?
Alors comment on nous suit depuis la Bigorre? On a bien sûr créé depuis hier les réseaux sociaux, donc des pages sur tous les réseaux sociaux connus qui s'appellent Ensemble au Sommet 2, mais bien évidemment par notre partenaire privilégié qui est notre association, c'est le groupe 65 qui est un vrai puits d'informations au quotidien pour les gens qui habitent les Hautes-Pyrénées. Et donc dessus seront mis des informations un peu exclusives avec des échanges, des petites interviews, des petits moments de vie qu'on va partager durant toute la préparation, et puis je l'espère, si les conditions nous permettent là-bas en termes de Wi-Fi, de pouvoir aussi envoyer des petits moments de vie là-bas durant toute notre évolution sur la Tanzanie.
Vous viendrez nous raconter ça au micro de Radio Présence à la rentrée.
Avec grand plaisir, l'histoire sera belle dans tous les cas.
Comment expliquez-vous que cette histoire-là marche et qu'elle suscite tant d'enthousiasme?
Eh bien, en fait, tous ceux qui connaissent le sanctuaire de Lourdes et la manière dont on y accompagne les personnes malades ont déjà compris, j'en suis sûre. Michael Jeunet et ses équipiers ne cherchent pas la gloire, ils n'ont pas d'ambition personnelle, ils ne sont pas là pour soigner leur ego. Ils sont tout simplement motivés par l'envie de relever et de partager un défi. Et puis, ils ont dans le cœur la conviction que les exploits sportifs, notamment, sont accessibles à tous, y compris aux personnes handicapés. Ils sont tout simplement ce que j'aime appeler des hommes et des femmes de bonne volonté.
Alors Anne-Rose, vous nous parlez de Michael Genet et de son équipe. Alors, vous les avez rencontrés à l'occasion donc de cette conférence de presse menée il y a quelques jours. Mais qu'en est-il des personnes en situation de handicap qu'ils amènent? Est-ce que vous avez pu les rencontrer et comment se préparent-ils à cette aventure?
Vous avez raison, Gilles. Gilda, Clément et Tom étaient présents lors de cette conférence de presse. Et puis, c'est bien normal parce que cette aventure, elle ne se construit pas autour d'eux, mais avec eux. Hein. C'est eux qui donnent tout son sens à cette expédition. Alors, comment se préparent-ils? Que s'attendent-ils à vivre? J'ai prêté mon micro à Giuseppe Paolucci qui est allé leur poser précisément ces questions.
Bonjour, c'est Giuseppe. Je suis stagiaire pour Radio Présence. Aujourd'hui, je suis avec Gilda. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Bonjour, enchantée. Alors moi, je m'appelle Gilda, j'ai 15 ans et je suis paratriathlète au club de Tarbes.
Donc tout à l'heure, tu nous disais qu'il y a 2 ans, tu étais en fauteuil roulant. Et tu nous disais aussi que la limite, c'est dans la tête. Donc toi, dans cette génération où les adolescents, ils préfèrent rester dans leur canapé ou chez eux, toi, comment t'as fait à te remotiver et à dépasser tes limites?
Alors merci pour la question déjà. Donc je vais ramener ça un peu aussi au projet. Donc le projet s'appelle Ensemble au sommet. Donc chacun a son sommet en fait, chacun a un objectif qu'il essaye d'atteindre. Maintenant moi mon objectif c'est des objectifs sportifs que je n'aurais jamais cru atteindre il y a 2 ans. Et il y a 2 ans mon objectif c'était de me relever parce que à cause de toutes les opérations et ma maladie qui n'est vraiment pas connue, donc qui s'appelle piezo 2. On sait vraiment pas comment, enfin on savait pas comment je pouvais m'améliorer et je me suis dit pourquoi pas faire du triathlon. C'est une idée folle mais je me suis dit je vais repousser mes limites et je vais le faire, je vais y arriver. Donc il n'y a pas longtemps j'ai fait mon premier triathlon et au fur et à mesure d'aller aux entraînements mon corps a pris des muscles et j'ai gagné en endurance et j'ai réussi à passer d'un fauteuil à un déambulateur et à passer d'un objectif qui était de me relever à gravir le Kilimanjaro. Donc voilà, merci.
Je suis avec Clément. Clément, est-ce que tu pourrais te présenter?
Bonjour, je m'appelle Clément Talbourg, j'ai 15 ans et je fais beaucoup de sport, notamment du tennis de table en compétition, en valide et en handisport.
Et le Kilimanjaro, ça se monte pas du jour au lendemain. Donc comment vous allez vous préparer avec tout le groupe d'ici fin août avant la montée?
Avec le groupe, on va faire plusieurs randonnées pour se coordonner. Donc 4 randonnées majeures prévues. La première vraiment pour se caler entre nous, pour bien se coordonner, qui ne sera pas publique. Et la troisième sera publique, qui sera ouverte à tout le monde. Tous ceux qui voudront venir pourront.
Et toi, personnellement, quels sont tes entraînements pendant la semaine, que ce soit pour ton sport, donc qui est le ping-pong, ou même pour la montée maintenant pour le Kilimanjaro?
Pour le ping-pong, j'ai 2 entraînements par semaine, plus des compétitions le week-end. Et pour le Kilimanjaro, je fais du renforcement musculaire et je fais du vélo tous les week-ends et de la course à pied. Merci.
Donc, je suis maintenant avec Thomas. Est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Thomas Varven, j'ai 39 ans. 39 ans, voilà, j'ai eu un accident de la circulation en vélo, donc à l'âge de 12 ans en 99. Et je me suis retrouvé hémiplégique, donc complètement paralysé à gauche. Et petit à petit, le sport, la détermination m'ont permis de quitter mon fauteuil roulant et puis petit à petit de repousser mes limites. Et puis très souvent, on m'a mis des barrières en me disant « tu pourras pas faire » et clairement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à repousser ces barrières qu'on me mettait justement, et voilà.
Et maintenant, cette pression pour le Kilimanjaro, il y a une pression mentale et même pour le Mont Blanc avant. Comment tu gères ça avant la montée?
Oui, c'est sûr. Alors essentiellement, les entraînements ont doublé, voire triplé là depuis 6 mois. Je ne fais pas un jour sans faire du sport, sauf récupération. Mais après, je suis accompagné également à côté, j'ai une coach mentale, j'ai une psychologue aussi pour les moments de down, un petit peu de dur. Et puis Michael qui pilote le projet, on s'écrit, on s'appelle quasiment tous les jours, enfin très très souvent en tout cas. Et après moi, je prends pas le départ si je suis pas en haut, hein, donc l'objectif c'est d'être en haut avant tout et de faire ce projet magnifique. Et puis montrer l'exemple à mon petit garçon que rien n'est impossible et que c'est pas parce que j'ai une jambe qui fait un peu ce qu'elle veut que je peux pas y arriver, quoi.
D'accord, merci beaucoup et bonne chance.
Merci à toi.
Alors Anne-Rose, voilà pour ce tour d'horizon des sommets.
Oui, nous avons bien de la chance en Bigorre, nous avons de superbes montagnes, mais nous avons surtout de belles initiatives qui prouvent que les gravirs est accessible à tous, ensemble au sommet. C'est un projet ambitieux mais réalisable parce qu'il est porté par des personnes qui ont les pieds sur terre et qui ne s'interdisent aucun rêve. Alors soutenez-les, suivez-les, c'est absolument édifiant.
Voilà, ensemble au sommet. Merci beaucoup Anne-Rose Jankovic.
Merci Gilles.